Jocelyn, troisième époque, Grotte des Aigles, 3 juillet 1793. Quand ce soleil d'été, foyer flottant de vie, me force à rabaisser ma paupière éblouie, et sous ce voile ardent m'éblouissant encore passe à travers mes cils entier le reflet d'or, quand ces rayons, frappant ces neiges éternelles, rejaillissent de terre en gerbes d'étincelles, font ressembler de ses pics et ce bleu firmament à la mer qui blanchit sur un roc écumant, que dans ce ciel semblable à des lacs sans rivage, je ne vois que l'éther limpide où rien ne nage, excepté l'aigle noir qui, comme un point obscur, semble dormir cloué dans l'immobile azur, ou qui, bercé là-haut de ses serres obliques, s'abaisse en décrivant des cercles concentriques, lance d'un vert revers au soleil en nageant de sa plume bronzée à fil reflet d'argent, et jette en me voyant, couché près de son air, un cri d'étonnement où vibre sa colère. Quand l'arbre ou le cochrécher répand sous le rayon quelque île fraîche d'ombre au milieu du gazon, et qu'étendu mollement sur cette couche verte du pavillon des cieux seulement recouverte, l'herbe haute qu'un poids de fleurs fait replier dans ses gouffres touffus m'engloutit tout entier, que du foin desséché le parfum m'environne, et que je n'entends rien que l'air chaud qui bourdonne, mon souffle qui se mêle à l'air vierge des cieux, où ma tanque puis bat mon front silencieux, alors je sens en moi des voluptés si vives, un si complet oubli des heures fugitives, que mon âme, à mes sens échappant quelquefois, de son corps détaché ne sent pas plus le poids, que le cygne, essuyant son aile déjà forte, ne sent le poids léger de l'aile qui le porte. J'aime dans ce silence à me laisser bercer, à ne me sentir plus ni vivre ni penser, à croire que l'esprit, quand vain le corps rappelle, a quitté sans retour l'enveloppe mortelle, et nuage pour jamais dans les rayons du ciel, comme dans ces rayons d'été la mouche à miel. Dans cet état où l'homme en Dieu se transfigure, le temps fuit et renaît sans que rien le mesure. On a le sentiment de l'immortalité. Puis quand un souffle, un vol d'un insecte d'été me rappelle à la fin mes sens que j'oublie, dans un plaisir amer sur moi je me replie. Je sens que dans ce ciel d'où je descends si là, Dieu m'écoute, il est vrai, mais ne me répond pas. Je cherche autour de moi, là, plus bas dans ce monde, quelque chose qui sente avec moi, qui réponde. Mon cœur est trop rempli pour ne pas déborder. Et si mon sort voulait seulement m'accorder un second cœur, un cœur vide et muet encore, où la vie et l'amour ne fissent que s'éclore, cette ardeur que le mien ne peut plus renfermer suffirait pour l'étreindre ou pour le consumer, je verserais en lui le tremplin de mon âme. Sa flamme servirait d'aliment à ma flamme. Cette double existence en multipliant moi me rendrait, ô mon Dieu, comme une ombre de toi. Je sens que je pourrais dans cet autre moi-même jeter ce qui m'oppresse et doubler ce que j'aime, au miroir de mon cœur, m'embraser à mon tour, créer l'âme de l'âme et l'amour de l'amour, et comme ton regard se voit dans ton ouvrage, consommer de mes feux, m'aimer dans mon image. Alors ce dôme bleu me semble un beau linceul. J'en trouve en vain mes bras au vent, mon cœur est seul. Je cherche en vain des yeux dans cette vie aride, je jette en vain un nom au hasard à ce vide. Le désert seul, hélas, m'entoure et me répond. Je vais du lac au pic et de la grotte au pont. Je reviens sur mes pas, je m'assieds, je me lève. Mon propre sein me pèse et rien ne le soulève. Il semble qu'à mon être il manque une moitié, objet de chaste amour, de sainte amitié, que je marche à tâtons, que je suis dans ce monde une voix qui n'a pas d'écho qui lui réponde, un œil qui dans un œil ne se réfléchit pas, un corps qui ne répond point d'ombre sur ses pas, et que, malgré ce ciel, ce beau lieu qui m'enivre, vivre seul, c'est languir, c'est attendre de vivre. Tout mon bonheur ainsi je change en vague ennui, solitude, un Dieu seul peut te remplir de lui. Grotte des Aigles, 6 juillet 1793. Poussé par cet instinct qui vers l'homme m'attire, j'ai franchi ce matin le seuil de mon empire. J'ai mesuré de l'œil la chute du torrent. J'ai touché de la main l'arc-en-ciel transparent, et d'un pied plus hardi que l'audace accoutume, passé le roc tremblant sous la voûte d'écume. Dans l'herbe, au moindre bruit soyeux de me cacher, et les pieds nus, de peur qu'on m'entendît marcher, suivant dans ses contours le ravin qui serpente, de ses bons pas à pas j'ai descendu la pente, jusqu'au bout d'une gorge où j'entendais parfois mugir les bœufs du pâtre et chanter une voix. Le tapis sous la feuille, et dérobé derrière les fronts de châtaigniers qui bordent la clairière, sans être découvert, pouvant tout entrevoir, j'ai vu ce que mon cœur aimait à concevoir. Une scène de paix, d'amour et d'innocence, que l'on rêve la nuit et qu'éveillé l'on pense. Imaginez, hélas, d'un temps qui nous a fui, que comme un souvenir tout homme porte en lui. Des chèvres, des brebis et de grasses génisses, celle-là cependant aux fleurs des précipices, celle-ci dans le bré plongeant jusqu'aux genoux, ruminait en puissant sous des buissons de houx. Tandis que des taureaux, jouant sur les pelouses, penchent leur tête oblique et leurs cornes jalouses, sur le jarret dressé, choquaient de bloc, leur front sonore et lourd, retentissant des chocs. À l'angle d'un buisson, sous un tronc de charmille, un jeune montagnard, près d'une jeune fille, sur la même racine étaient assis tous deux, seuls, n'ayant que le ciel et les bois autour d'eux. Ils gardaient sans souci ces troupeaux dont la cloche, comme un appel lointain, tintait de roche en roche. Laissaient veiller le dogue ou chantaient quelquefois pour qu'un chevreau perdu se guidât sur la voie. Les coudes appuyés sur ses genoux, le pâtre penchait son front chargé de cheveux noirs sur l'âtre où fumait parmi l'herbe un reste de tison. Et regardant le sol, du bout de son bâton, il semblait au hasard écrire sur la cendre sa rêverie, et avait quelque chose de tendre. Et quand il relevait son front de ses genoux, qu'il ouvrait au grand jour son œil limpide et doux, dans le pli gracieux de sa lèvre ridée, on voyait en passant sourire son idée. Et quand de son amour ce regard s'inondait, un soupir contenu de son sein débordait. Mais ce soupir n'était qu'un élan sans tristesse, un poids levé du cœur que le bonheur oppresse. La jeune fille avait cette fleur de beauté que n'a mûri encore aucun rayon d'été, ce duvet de la joue où la rougeur colore la moindre impression qu'un regard fait éclore. Son œil humide et bleu laissait lire au plein jour la calme volupté d'un mutuel amour. Pour cacher une honte, une ombre, une pensée, sa paupière au long cil n'était jamais baissée. Mais son regard posait, confiant, affermi, comme pose une main dans la pince d'un ami. Un réseau noir serrait ses cheveux dans sa maille, deux tresses seulement descendant sur sa taille, où quelques branches fleurs des prés s'entremêlaient, sur l'herbe derrière elle en blonds anneaux roulaient. Un étroit corset rouge embrassait sa ceinture. Une robe aux plis lourds et de couleur obscure lui venait à mi-jambe et laissait voir ses pieds, nus et blancs, sur la mousse au soleil appuyé, comme dans des débris dont la terre est couverte, deux pieds de marbre blanc brillent sur l'herbe verte. Ses doigts tressaient l'osier, tandis que son regard, dans le vague du pré, s'égarait au hasard. L'heure ainsi s'en allait une à l'autre semblable, l'ombre tournait autour des troncs noueux d'érable, Le bœuf rassasié sur l'herbe se couchait. Des dormantes brebis, l'agneau se rapprochait sans que les deux amants, ivres de solitude, changeassent de bonheur, de regard, d'attitude. On voyait, à la paix de leur lent entretien, que leur cœur n'était pas vide comme le mien. À peine quelques mots, de distance en distance, s'écoulaient de leurs lèvres et troublaient le silence, comme une eau qui s'enfuit d'un bassin transparent, s'échappe goutte à goutte et coule en murmurant. Quand le soleil qui monte en raccourcissait l'ombre, fut à moitié du ciel sur l'herbe molle et sombre, le jeune homme étendit son corps pour sommeiller. Et comme abandonnant son front à l'oreiller, sur les genoux pliés de sa paisible amie, laissa tomber son cou et sa tête endormie. Elle ne dormait pas pendant qu'il sommeillait, mais essuyant son front que la sueur mouillait, jouant dans ses cheveux avec ses doigts d'ivoire, roulait et déroulait leurs boucles épaisses et noires. L'heure du repas vint. Ils mangèrent, leurs mains puisaient le même lait, rompit le même pain, leurs genoux rapprochaient leur servir de table. Ils choisirent la fraise au même plat d'érable, partagèrent la grappe et le rayon de miel, et dans la même coupe ils burent l'eau du ciel. Mais le rayon du soir, qui pompe les orages, sur le vallon plus sombre abaisse les nuages. La feuille qu'à midi le vent laissait dormir, dans les bois murmurants commença de frémir. Et comme au flanc des monts un brouillard qui s'essuie, la brume descendit sur l'herbe en fine pluie. Ils vinrent s'abriter contre le tronc noirci du hêtre où le troupeau se rassemblait aussi. Et comme, au bruit du vent qui secouait sa voûte, la feuille sur leur cou distillait quelques gouttes, sous les flancs ténébreux d'un arche de rocher, où les oiseaux mouillés à l'abri vont percher, dérobés à mes yeux par un rideau d'ombrage, ils laissèrent en paix et goûtaient le nuage. En écoutant de loin leur naïf entretien, jaloux, je comparais leur sort avec le mien. Et le vent m'apportait quelques rires folâtres où se mêlait la voix de la Vierge et du pâtre. Je quittais cette scène en portant dans mes yeux ce tableau de bonheur comme un rêve des cieux. Puis, plus dévoré du feu de mon inquiétude, plus seul dans ma pensée et dans ma solitude, et me promettant bien de ne plus m'approcher de ces eaux où ma soif s'accroît sans s'étancher. Grotte des Aigles, 24 août 1793. Il repose, écrivons. Quel jour, quelle semaine! De deuil et de bonheur pour moi comme elle est pleine, et par quel coup de foudre, hélas, ai-je acheté cet enfant, compagnon de mon adversité. Le jour baissait, j'avais passé l'heure après l'heure, errant de site en site autour de ma demeure. Je venais de m'asseoir sur le roc incliné, et quand tombant des hauteurs la cascade a miné, mes jambes et mon front pendaient sur cet abîme, et je suivais des yeux ce tourbillon sublime qui, m'enivrant de bruit et d'étourdissement de mes propres pensées, m'ôtait le sentiment. Je dominais de là l'ouverture profonde où la neige d'été roule en poudre avec l'onde, et le pont naturel qui, sur son double bord, se dresse et de mon lac défend l'affreux abord. Mon âme se laissait indolemment bercer, emporter flots à flots et pensée à pensée, et se perdant au sein de ces œuvres de Dieu, étant déjà bien loin et du jour et du lieu, quand un coup de fusil, que l'écho répercute, tonne et roule au-dessus du bruit sourd de la chute. Je m'éveille en sursaut, je me lève, je vois deux soldats poursuivant deux proscrits aux abois. À peine séparés par une courte avance, les fuyards n'avaient plus qu'une faible espérance. Les soldats recherchaient leurs armes en courant. Les deux proscrits touchaient aux parois du torrent. Il fallait ou périr ou trouver un passage. Ils s'arrêtent glacés d'horreur sur le rivage. Le gouffre est sous leurs yeux et la mort sur leurs pas. Je les vois s'embrasser, Je ne réfléchis pas qu'un cri de mon séjour va trahir le mystère. Je jette un cri soudain, perçant, involontaire. Ils m'entendent, j'accours. Je montre de la main sur le gouffre fumant le hasard de chemin. Aussitôt des proscrits, le plus âgé s'avance, donnant la main à l'autre encore dans l'enfance. Pour soutenir leurs pas, j'accours de mon côté. Au droit sommet du pont, ils sont déjà montés. Déjà le plus âgé me tend du haut de l'arche, l'enfant pâle et tremblant dont je soutiens la marche. « Sauvez, sauvez, dit-il, généreux étranger, cet enfant que je vais ou défendre ou venger. J'entraînerai du moins ces bourreaux dans ma chute, fuyez, et que ma mort vous donne une minute. » Déjà les deux soldats, poussés par leur ardeur, sans sonder du ravin l'immense profondeur, sur ces blocs suspendus, plus polis que la glace, leurs crosses à l'épaule avançaient sur sa trace. Quand le proscrit les voit au plus horrible pas, il arme son fusil pour un double trépas. Quatre éclairs à la fois jaillissent de la pierre, les quatre coups partis ne font qu'un seul tonnerre. Les deux soldats, frappés par cette double mort, tombent comme un seul bloc, glissent, roulent du bord. En vain leurs doigts crispés, leurs dents convulsives, du pont sans parapet pressent, mordent les rives. La cascade les jette à l'abîme ondoyant. Leurs jambes et leurs bras plongent en tournoyant. Tout leur corps, sur le roc, pilé par l'avalanche, n'est plus qu'un point obscur dans sa poussière blanche. Le proscrit, qui les voit tomber, encore debout, sent sa poitrine enfin saignant d'un double coup. Son sang, dont ce regard suspendait seul la perte, s'échappe en deux ruisseaux de sa chemise ouverte. Il tente un pas, son pied ne peut le soutenir. Il va rouler, mais mon bras a su le retenir. Je le traîne expirant sur l'herbe du rivage. Le bonheur et la mort luttent sur son visage. Il baise avec amour son fusil triomphant. Sa voix rend la parole et l'âme à son enfant. Nous étanchons son sang, nous lavons sa blessure, puis formant à la hâte un brancard de verdure, l'enfant portant les pieds, moi le front, nous marchons, et dans ma grotte enfin, mourant, nous le couchons. 25 août 1793. Étendu sur un lit de mousse ensanglanté, sur les bras de son fils sa tête était jetée. Ce regard seul sur lui pouvait se soulever. Quelquefois, il semblait s'endormir et rêver. Et sur son lit, sa main échappée à la mienne semblait tâter en songe un fil qui la retienne. Le pauvre enfant voulait me dérober en vain des sanglots qui sortaient malgré lui de son sein. Chaque fois qu'il lavait son front pâli d'alarme, je voyais dans ses yeux rouler de grosses larmes qui pleuvaient sur le front que son cœur appuyait et qu'un baiser craintif de sa bouche essuyait. Puis il interrogeait mes yeux comme pour lire l'affreuse vérité que je n'osais lui dire. Et quand malgré mes yeux mon trouble lui parlait, de ses bras convulsifs l'étreinte redoublait. Il me jetait dans l'ombre un regard de colère et de son corps entier enveloppant son père. Il semblait défier le ciel et le trépas de pouvoir arracher ce mourant de ses bras. Alors ses blonds cheveux tombant sur son visage, mêlés aux cheveux blancs de ce front d'un autre âge, me cachaient leur figure et je n'entendais plus de baisers, de sanglots qu'un murmure confus, deux souffles confondus dans une seule haleine, tantôt forte, tantôt se distinguant à peine, où les derniers élans de deux cœurs, de deux voix, semblaient se ranimer et s'éteindre à la fois. Ma torche, cependant, dans ses mornes ténèbres, jetait son jour rougeâtre et ses vapeurs funèbres. Moi, debout dans un coin de la grotte, à l'écart, de peur de profaner la douleur d'un regard, tantôt je ranimais la torche évanouie, tantôt, pour réveiller quelques signes de vie, je jetais aux blessés l'eau froide du courant. où soufflait la chaleur sur les pieds du mourant. Et tantôt, à genoux dans l'ombre la plus noire, cherchant les chants sacrés épars dans ma mémoire, le Christ entre mes mains, je murmurais tout bas les hymnes dont la voix berce encore le trépas, afin qu'une prière au moins de cette terre précédât dans le ciel cette âme solitaire. La moitié de la nuit ainsi se consuma. Vers l'aurore, la vie un peu se ranima. Il regarda son fils, il jeta sur la voûte un regard où semblait hésiter quelques doutes, puis reportant sur moi l'œil fixe de la mort et recueillant ses sens en un dernier effort, « Je meurs, murmura-t-il, et le ciel vous confie ce fils, mon seul regret, ce fils, mon autre vie. Veillez sur ce destin que j'abandonne à Dieu. Soyez pour lui, soyez un père, un frère, à Dieu. » La parole à sa lèvre, hélas, montait encore, mais dans les sons éteints ne pouvait plus éclore. De moment en moment, sa tête s'égarait. Aucun fil ne liait les mots qu'il murmurait. Il parlait aux absents, aux morts, à sa famille. Et regardant son fils, il appelait sa fille. Enfin, quand le regard s'éteignit dans ses yeux, il posa sur sa bouche un doigt mystérieux, et d'un reste de voix nommant encore Laurence, il mourut en faisant le geste du silence. 28 août 1793. J'ai passé tout ce jour comme dans un tombeau, le mort enveloppé dans son sanglot manteau, le pauvre enfant auprès, étendu sur la terre, le front enseveli dans le linceul du père, tantôt comme endormi sur le même oreiller, tantôt comme écoutant son père sommeiller, soulevant le manteau qui couvre sa figure, prenant pour son haleine un souffle qui murmure, collant longtemps l'oreille à sa bouche et longtemps retenant dans son sein ses sanglots haletants, puis enfin détrompé sur le front mort qu'il pleure, attachant un regard triste et long comme l'heure, un de ces forts regards qui semblent en un moment concentrer toute une âme en un seul sentiment, et qui rendraient hélas la vie à la mort même, si l'amour seul pouvait ranimer ce qu'il aime. 27 août 1793. Pendant qu'un lourd sommeil, plus fort que nos douleurs, fermait enfin les yeux de l'enfant dans ses pleurs, j'ai dénoué ses bras du corps froid de son père, et j'ai rendu ce soir la dépouille à la terre. Au bord du lac, il est une plage dont l'eau ne peut même en hiver atteindre le niveau, mais où le flot, qui bat jour et nuit sur la grève, déroule un sable fin quand d'une élève. Là, le mur du rocher, sous sa concavité, couvre un tertre plus vert de son ombre agitée. La roche en cet endroit, par sa forme, rappelle le cœur obscur et bas d'une antique chapelle, quand la nature en a revêtu les débris de lianes rampantes et d'arbustes fleuris. Là, du pauvre étranger, la nuit, mes mains creusèrent la couche dans la terre et mes pleurs l'arrosèrent. Et les mots consacrés à ce suprême adieu remirent son sommeil et son réveil à Dieu. Puis, pour sanctifier la place par un signe et de son saint dépôt la rendre à jamais digne, je fis tomber d'en haut 5 grands blocs suspendus, gigantesques débris de ces rochers fendus, et les groupant en croix sur la couche de sable, j'imprimais sur le sol ce signe impérissable. Bientôt la giroflée, les capriers verts de réseaux et de fleurs les auront recouverts, et le signe y viendra, saint et charmant présage, en sortant de la vague y changer de plumage. Grotte des Aigles, 28 août 1793. Nos cœurs se sont ouverts, Mon jeune compagnon m'a confié ce soir son histoire et son nom. Il est fils d'un proscrit, il se nomme Laurence. Sa jeune mère est morte en lui donnant naissance. Il n'a ni sœur ni frère. À 16 ans, parvenu dans toute son enfance, il n'a jamais connu d'autre soin, d'autre amour, d'autre front sur la terre que les soins, que l'amour, que le front de son père. Heureuse avec lui et près de lui toujours, jusqu'à ses temps de meurtre, il a passé ses jours dans un noir désert d'une aride campagne sur les bords orageux de la mer de Bretagne. Quand l'orage civil en ces lieux retentit, pour ses lois et son Dieu, son père combattit. Vaincu, forcé de fuir ses champs héréditaires, cachant sous un faux nom son nom et sa misère, il avait traversé la France avec son fils. Du haut de ces sommets qu'il visita jadis, d'espoir et de bonheur, l'âme déjà remplie, ses yeux voyaient de près les champs de l'Italie. Quand, au bord de l'Isère, aperçut des soldats, par de vils délateurs se lançaient sur ses pas, ils allaient échapper dans la nuit, nuit funeste. Ses larmes l'étouffaient et je savais le reste. De la grotte, 16 septembre 93. Mon cœur me l'avait dit, toute âme est sœur d'une âme. Dieu les créa par couple et les fit homme ou femme. Le monde peut en vain un temps les séparer. Leur destin tôt ou tard est de se rencontrer. Et quand ces sœurs du ciel ici-bas se rencontrent, d'invincibles instincts l'une à l'autre les montrent. Chaque âme de sa force attire sa moitié. Cette rencontre, c'est l'amour ou l'amitié, seule et même union qu'un mot différent nomme, selon l'être et le sexe en qui Dieu la consomme. Mais qui n'est que l'éclair qui révèle à chacun l'être qui le complète, et de deux n'en fait qu'un. Quand il a lui, le feu du ciel est moins rapide. L'œil ne cherche plus rien, l'âme n'a plus de vide. Par l'infaillible instinct, le cœur soudain frappé ne craint pas de retour ni de s'être trompé. On est plein d'un attrait qu'on n'a pas senti naître. Avant de se parler, on croit se reconnaître. Pour tous les jours passés, on n'a plus un regard, on regrette, on gémit de s'être vu trop tard. On est d'accord sur tout avant de se répondre. L'âme de plus en plus aspire à se confondre. C'est le rayon du ciel, par l'eau répercuté, qui remonte au rayon pour doubler sa clarté. C'est le son qui revient de l'écho qui répète, seconde et même voix à la voix qui le guette. C'est l'ombre qu'avec nous le soleil voit marcher, sœur du corps qu'à nos pas on ne peut arracher. 17 septembre 1793. Vous me l'avez donné, ce complément de vie, mon Dieu. Ma soif d'aimer est enfin assouvie. Du jour où cet enfant sous ma grotte est venu, tout ce que je rêvais jadis, je l'ai connu. Pour la première fois, moi, dont l'âme isolée à d'autres jusqu'ici ne s'était pas mêlée, moi qui trouvais toujours dans ce qui m'approchait quelque chose de moins que mon cœur ne cherchait, au visage, au regard, au son de voix, au geste, à l'émanation de ce rayon céleste, aux premières douceurs du premier entretien, au cœur de cet enfant, j'ai reconnu le mien. Mon âme, que rongeait sa vague solitude, a répandu sur lui toute sa plénitude. Et mon cœur abusé, ne comptant plus les jours, croit en l'aimant d'hier, l'avoir aimé toujours. De la grotte, 20 septembre 93. Je ne sens plus le poids du temps, le vol de l'heure, d'une aile égale et douce en s'écoulant mes fleurs. Je voudrais chaque soir que le jour avançait, fut encore au matin à peine commencé. Ou plutôt, que le jour naisse ou meure dans l'ombre, que le ciel du vallon soit rayonnant ou sombre, que l'alouette ou chante ou non à mon réveil, mon cœur ne dépend plus d'un rayon de soleil, de la saison qui fuit, du nuage qui passe. son bonheur est en lui. Toute heure, toute place, toute saison, tout ciel sont bons quand on est deux. Qu'importe aux cœurs unis ce qui change autour d'eux. L'un à l'autre ils se font leur temps, leur ciel, leur monde. L'heure qui fuit revient, plus pleine et plus féconde. Leur cœur intarissable est l'un à l'autre ouvert, leur est un firmament qui n'est jamais couvert. Ils y plongent sans ombre, ils y lisent sans voile, un horizon nouveau sans cesse s'y dévoile. Du mot de chaque ami, le retentissement éveille au sein de l'autre un même sentiment. La parole dont l'un révèle sa pensée sur les lèvres de l'autre est déjà commencée. Le geste aide le mot, l'œil explique le cœur. L'âme coule toujours et n'a plus de langueur. D'un univers nouveau, l'impression commune vibre à la fois, s'y fond et ne fait bientôt qu'une. Dans cet autre soi-même où tout va retentir, on se regarde vivre, on s'écoute sentir. Et se mettant à nu sa pensée ingénue, on s'explique, on se crée une langue inconnue. En entendant le mot que l'on cherchait en soi, on se comprend soi-même, on rêve, on dit « mais c'est moi !» Dans sa vivante image, on trouve son emblème, on admire le monde à travers ce qu'on aime. Et la vie appuyée, appuyant tour à tour, est un fardeau sacré qu'on porte avec amour. De la grotte, 25 septembre 93. Quand je reviens le soir de mes lointaines chasses, les pieds meurtris, les doigts déchirés par les glaces, rapportant sur mon dos l'élan ou le chamois, et que du haut d'un pic, du plus loin, j'aperçois mon lac bleu resserré comme un peu d'eau qui tremble dans le creux de la main où l'enfant la rassemble, le feston vert bordant sa coupe de granit, de mes chaînes penchées la tête qui jaunit, et vacillant au fond de la grotte qui fume la lueur du foyer que l'Orance rallume. Quand je rêve un moment, quand je me dis, là-bas, dans ce point lumineux qu'un lynx ne verrait pas, j'ai la meilleure part, l'autre part de moi-même, un regard qui me cherche, un souvenir qui m'aime, un ami dont mon pas fera battre le cœur, un être dont le ciel m'a fait le protecteur. Pour moi tout, et pour qui je suis tout sur la terre, patrie, amis, parents, mère, sœur, frère et père, qui compte tous mes pas dans mon cœur palpitant, et pour qui loin de moi le jour n'a qu'un instant. L'instant où de ces bons vous voyez redescendre, il vient de ces deux bras mon cou se suspendre, et bondissant après comme un jeune chamois me ramène à la grotte en courant devant moi. Alors, pressant le pas sur mon chemin de neige, je me trace de l'œil le sentier qui l'abrège. Le glacier suspendu m'oppose en vain son mur. Je me laisse glisser sur ses pentes d'azur. Je retrouve Laurence au pied de la montagne, car je ne permets pas encore qu'il m'accompagne. Il passe alors son bras plus faible sous le mien. Je lui compte mon jour, il me compte le sien. Nous rentrons. Il me dit combien nos tourterelles ont couvé le matin d'eux éclos sous leurs ailes, combien la chèvre noire a donné de son lait, ou de petits poissons ont rempli son filet. Il me montre les tas de mousses et de feuilles que pour tapisser l'antre avant l'hiver il cueille. Les fruits qu'il a goûtés rapportaient du bois et dont l'épine aiguë ensanglante ses doigts. Les bras de vigne vierge ou de lierre qui flotte, qu'il a fait serpenter dans les flancs de la grotte. Les oiseaux qu'il a pris en leur jetant du grain, et les chevreuils privés qui mangent dans sa main. Car, soit par préférence ou soit par habitude, tous ces doux compagnons de notre solitude, biches de la montagne, élans, oiseaux des bois, accourent à sa vue et volent à sa voix. Nous mangeons sur la main ce que le jour nous donne. Le lait, les simples mets que le joie assaisonne, nous mordons tour à tour à des fruits inconnus, ou pour nous abreuver nous en pressons le jus. Pour les mortes saisons, nous mettons en réserve ce que le soleil sèche et que le temps conserve. À chaque invention de l'un de l'autre applaudit. On prévoit, on combine, on se trompe et l'on rit. Dans ces 1000 entretiens, le long soir se consume. Sur le foyer dormant, le dernier tison fume. Et souvent dans le lac, miroir de notre nuit, nous voyons se lever l'étoile de minuit. Alors nous nous mettons à genoux sur la pierre, vers la fenêtre où flotte un reste de lumière, d'où Laurence, inclinant son front grave et pieux, sur la croix du tombeau jette souvent les yeux. Et quand, après avoir béni cette journée, que nous rendons à Dieu comme il nous l'a donnée, après avoir prié, pour que d'autres soleils nous ramènent demain toujours des jours pareils, après avoir atteint nos vœux pour ceux qui vivent, au souvenir des morts, nos prières arrivent. Laurence, en répondant au verset, bien des fois, malgré ses efforts, des larmes dans la voix, et de ses pleurs de fils non encore épuisés, ses mains jointes après sont souvent arrosées. Ainsi finit le jour, et puis, chacun en paix, va s'endormir couché sur son feuillage épais, jusqu'à ce que la voix du premier qui s'éveille vienne avec l'alouette enchanter son oreille. De la grotte, 23 octobre 93. Depuis que sa douleur par le temps s'engourdit, comme Laurence est fier et beau, comme il grandit. Par moments, quand sur moi son visage rayonne, la splendeur de son front m'éblouit et m'étonne. Je ne puis soutenir l'éclat de sa beauté. Et quand dans son regard le mien tombe arrêté, je crois sentir en moi parfois ce qu'éprouvèrent près du sacré tombeau les femmes qui trouvèrent l'homme ainsi qui leur dit « Allez, il n'est plus là !» Quand leur cœur à ces mots en elles se troubla, et que, croyant parler à l'homme, chose étrange, leur regard dessillé s'aperçut de l'ange. De la grotte, 24 octobre. Ce soir, je regardais Laurence à la clarté du foyer flamboyant sur son front reflété, pendant qu'assis à terre, il regardait lui-même jouer entre ses pieds le jeune faon qu'il aime. Jamais rien de si doux et de si gracieux que la biche et l'enfant ne s'offrit à mes yeux. Repliant ses pieds blancs sous son ventre, la biche, comme dans l'herbe molle où le jour elle le niche, s'arrangeait, confiante, entre ses deux genoux. Levait sur moi son œil, intelligent et doux, broutait entre ses doigts de tendres jets de saule, allongeait et posait le col sur son épaule, et me jetant de là ce regard triomphant, léchait et mordillait les cheveux de l'enfant. 28 octobre 93. L'enfant. Je ne puis plus nommer ainsi Laurence. Ses 16 ans l'ont conduite à son adolescence. Son front s'élève presque à la hauteur du mien. À la course, mon pied gagne à peine le sien. Seulement sa voix tendre, angélique, argentine, conserve encore l'accent de sa voix enfantine. Et ses inflexions, vibrantes de douceur, me font rêver souvent à la voix de ma sœur. Alors, pour un instant, mon cœur, que ce son frappe, pour remonter un peu le cours du temps, m'échappe, et me reporte au jour où ces tendres accents de femme, mère ou sœur résonnaient à mes sens. Et donnant tant de charme au foyer domestique, de mon enfance était la suave musique. Je les cherche, mon cœur des absences entretient. Des larmes dans mes yeux montent. Laurence vient, s'assied à mes genoux, me regarde en silence, me demande pourquoi je pleure, à qui je pense. Je lui dis mon enfance, il pleure en m'écoutant. « Comme il t'aimait, dit-il, mais moi je t'aime autant. Ne suis-je pas pour toi comme un fils de ta mère? N'as-tu pas remplacé dans mon cœur même un père? » Puis, sur la même pierre, appuyant nos deux fronts, l'un vis-à-vis de l'autre, ensemble, nous pleurons. Mais quand, à cette voix revenue de mon rêve, pour m'essuyer les yeux, ma tête se relève, que l'ombre de mon front s'éclaire et que je vois ce visage charmant, tout en eau devant moi, se relever aussi, s'éclairer à mesure comme un miroir vivant de ma propre figure, comme une ombre animée où tout ce que je sens bat dans un autre cœur, se peint dans d'autres sens. Quand je pense que Dieu me rend dans ce seul être, tous ceux parmi lesquels sa bonté me fit naître, que ce pauvre orphelin n'a que moi pour appui, qu'il existe en moi seul, comme moi tout en lui, que mon bras est son bras, que ma vie est sa vie, et que Dieu même a fait l'amitié qui nous lie. Ah, mes larmes bientôt tarissent, et mon cœur, dans un seul sentiment, trouve assez de bonheur. De la grotte, 29 octobre 93. Beauté, secret d'en haut, rayon, divin emblème, qui sait d'où tu descends? Qui sait pourquoi on t'aime? Pourquoi l'œil te poursuit? Pourquoi le cœur aimant se précipite à toi comme un fer à l'aimant? D'une invincible étreinte à ton ombre s'attache, s'embrase à ton approche et meurt quand on l'arrache. Soit que, comme un premier ou cinquième élément, répandu ici-bas dans le firmament, sous des aspects divers ta force se dévoile, attire nos regards aux rayons de l'étoile, au mouvement des mers, à la courbe des cieux, aux flexibles ruisseaux, aux arbres gracieux. Soit qu'en très plus parlant, sous nos yeux imprimés et frappant de ton sceau la nature animée, tu donnes au lion l'effroi de ses regards, au cheval l'ondoiement de ses longs crins épars, à l'aigle l'envergure et l'ombre de ses ailes, ou leurs enlacements au cou des hirondelles. Soit enfin qu'éclatant sur le visage humain, miroir de ta puissance abrégé de la main, dans les traits, les couleurs dont la mer le décore, au front d'homme ou de femme, où l'on voit éclore, tu jettes ce rayon de grâce et de fierté que l'œil ne peut fixer sans en être humecté. Nul ne sait ton secret, tout subit ton empire. Toute âme a ton aspect où s'écrie ou soupire, et cet élan qui suit ta fascination semble de notre instinct la révélation. Qui sait si tu n'es pas en effet quelque image de Dieu même qui perce à travers ce nuage, ou si cette âme à qui ce beau corps fut donné sur son type divin ne l'a pas façonné, sur la beauté suprême, ineffable, infinie, n'errant pas modelé le charmant harmonie, ne s'en est pas en naissant par des rapports secrets approprié sa forme et composé ses traits, et dans cette splendeur que la forme révèle ne nous dit pas aussi l'habitante est plus belle, nous le saurons un jour, plus tard, plus haut. Pour moi, Dieu seul m'en est témoin et lui seul sait pourquoi. Mais soit que la beauté brille dans la nature, dans les cieux, dans une herbe ou sur une figure, mon cœur, né pour l'amour et l'admiration, y vole de lui seul comme l'œil au rayon, la couve d'un regard, s'y délecte et s'y pose, et toujours de soi-même y laisse quelque chose, et mon âme allumée jette tour à tour une étincelle ou deux de son foyer d'amour. Je me suis reproché souvent ces sympathies, trop soudaines en moi, trop vivement senties, ces instincts du coup d'œil, ces premiers mouvements qui d'une impression me font des sentiments. Je me suis dit souvent, Dieu peut-être condamne ces penchants où du cœur la flamme se profane, mais hélas, malgré nous, l'œil se tourne au flambeau. Est-ce un crime, oh mon Dieu, de trop aimer le beau? De la grotte, 1er novembre 93. Ses pensées, car toujours c'est à lui que je pense, me vinrent l'autre jour en regardant Laurence. Jamais la main de Dieu sur un front de 15 ans n'imprima l'âme humaine en traits plus séduisants. Et de plus de beauté, combinant le mélange, ne laissa l'œil douter entre l'enfant et l'ange. Tout ce qu'a son matin l'âme de pureté, tout ce qu'un œil sans tache a de limpidité, tout ce qu'a son aurore une vie a d'ivresse, tout ce qu'un cœur plus mûr a de grave tendresse, réuni dans ses traits riants ou sérieux, y forme dans l'accord un tout harmonieux. Et selon le rayon que la pensée y verse, l'ombre qui les parcourt, l'éclair qui les traverse, y brille dans ses yeux en rayon de splendeur, y rougit sur sa joue en rose de candeur, y flotte à sa paupière en larmes transparentes, y nage en ses regards en rêverie errante, si creuse emplie pensif entre ses deux sourcils, si recueille caché sous le bord de ses cils, sur sa lèvre entr'ouverte en désir vague aspire, ou s'épand sur sa bouche en langoureux sourire. Partout où l'enfant passe, on dirait qu'il a lui. Un jour intérieur semble sortir de lui. Bien souvent, sur la fin d'un jour mourant et sombre, lorsque la grotte est moite, tout est déjà dans l'ombre, autour de sa figure il fait encore grand jour. Son éclat se reflète aux objets d'alentour. Il éclaire la nuit d'un reste de lumière, et son regard me force à baisser la paupière. On dirait ces rayons de jour dont Raphaël a couronné le front de ses vierges du ciel. Peut-être que ce jour n'était pas un symbole et que dès ici-bas l'âme a son auréole. J'ai beau chercher bien loin dans ma mémoire, rien des visages connus ne rappelle le sien. Aucun des compagnons de ma première enfance, des lévites amis de mon adolescence, n'avait ces traits si purs, ce front, cette langueur, ce son de voix émue qui vibre au fond du cœur, cette peau qu'un sang bleu sous les veines colore, ce regard qu'on évite et qui vous berce encore, cet œil noir qui ressemble au firmament obscur lorsque l'aube naissante y lutte avec l'azur, ou l'humide rayon de l'âme qu'il dévoile sur un front ténébreux jaillit comme une étoile, ses cheveux dont la soie imite en blonds anneaux les ondulations et les courbes des eaux. Il semble à cette forme où tout est luxe et grâce que cet être céleste est né d'une autre race et n'a rien de commun avec ceux d'ici-bas que ce regard d'ami qu'il attache à mes pas. Et quand, sur ses hauteurs, ses beaux pieds sans chaussures, sa cravate nouée autour de sa ceinture, dans sa veste sans plis jusqu'au cou boutonné et à peine resserrant son sein emprisonné, son col nu et portant sa tête avec souplesse, comme un front de coursier qu'on flatte et qu'on caresse, ses cheveux que d'un an le fer n'a retranché, des deux côtés du sol en boucles épanchées, et son front tout baigné de sueur ou de pluie, renversé vers le ciel pour qu'un rayon l'essuie, je le vois accourir de loin et, tout à coup, sur un pic du glacier m'apparaître debout. Oh, je crois voir tout troublé, la céleste figure, comme un être idéal au-dessus de nature, se détacher de terre et se transfigurer. Et je suis quelquefois tenté de l'adorer. Mais de sa douce voix, la tendre résonance me rappelle à moi-même et me montre Laurence. De la grotte, 1er décembre 93. Des aiguilles de glace où s'éclairent ses monts, l'année a pour 6 mois retiré ses rayons. Le soleil est noyé dans la mer des nuages qui brise jour et nuit contre ses hautes plages et jette au lieu d'écume à leur cime, à leur flanc, la neige que la bise y fouette en flocons blancs. Le jour d'un carillon brisé par les tempêtes, qui s'étend un moment tout trempé sur ses fêtes, et que l'ombre qui court vient soudain balayer comme levant la feuille au pied du peuplier. Il semble que de Dieu la dernière colère abandonne au chaos ses cimes de la terre. L'éternel ouragan torture ses sommets. Les vagues de brouillard n'y reposent jamais. Un lourd mugissement qu'une plainte accompagne roule dans l'air et sort des eaux de la montagne. C'est la lutte des vents dans le ciel. C'est le choc des nuages jetés contre l'écueil du roc. C'est l'âpre craquement de la branche flétrie qui, sous les lourds glaçons, se tord, éclate et crie. Du corbeau qui s'abat à l'aigre croassement, des autans engouffrés le triste sifflement, les bonds irréguliers de la lourde avalanche qui tombe et que le vent roule en poussière blanche, l'éternel contre-coup des chutes des torrents qui sillonnent les rocs sous leurs bombes déchirants et font ronfler le gouffre où la cascade tonne d'un souffle souterrain continu, monotone, tout semblable de loin au frémissement sourd de la corde d'un arc qui vibrerait toujours. Plus de fête du ciel sur ces cimes voilées, d'aurore étincelante ou de nuits étoilées, plus de festons de fleurs pendant à mon rocher, plus d'oiseaux accourus pour chanter ou nicher. La corneille égarée y suit ses loires blandes. Les frimas congelés sont les seules guirlandes qui garnissent la roche où nous nous enfonçons. Le jour ne nous y vient qu'à travers les glaçons. Mais dans l'air tiède, assis les deux mains sur la braise, aux lueurs du foyer qu'entretient le mélèze, nous passons sans ennui le temps des mauvais jours. Ils sont si bien remplis que nous les trouvons courts. Des entretiens coupés de quelques heures d'études nous font de notre grotte une douce habitude. Nous nous y recueillons avec la volupté de l'oiseau dans son nid près de l'autre abrité. Qu'il y ait un ciel de pluie ou sur la plaine blanche, le vin court ou les vents bercent au chaud sur sa branche. Plus les vents déchaînés hurlent d'horribles cris, plus l'avalanche gronde et roule de débris, plus la nuit s'épaissit sous un ciel bas et terne, plus la neige s'entasse autour de la caverne, plus dans ces sifflements, ces terreurs du dehors, nous trouvons d'âpres joies et d'intimes transports. Puis nous nous concentrons dans la roche qui tremble, et nous sentons la main de Dieu qui nous rassemble. Et si d'un ciel d'hiver quelques rares soleils effleurent par hasard la fenêtre au réveil, échappés du rocher comme un chevreuil du gîte, pour jouir du rayon dont nous élançons vite, nous crions de plaisir en voyant les cristaux formant des murs, des tours, de transparents châteaux, des arches de saphir, des grottes où l'aurore des verts reflets de l'onde en passant se colore, des fronts éblouissants où le givre entassé colle autour des rameaux un feuillage glacé, et la neige sans borne et dont chaque parcelle, en criant sous nos pieds, luit comme une étincelle. Dans ces déserts mouvants, nous creusons au hasard des sentiers dont la poudre éblouit le regard, comme dans l'herbe en fleurs où le chevreau se noie. Dans ces lits de frissons, nous nous roulons de joie. Nous rions en voyant tous deux nos cheveux blancs, poudrés par les frimas de givre ruisselant. Nous nous lançons la neige où le doigt s'engourdisse de plaisir en rentrant, nos pieds transis bondissent. Car Dieu, qui nous confie dans ce rude séjour, donne même en hiver sa joie à chaque jour. De la grotte, 16 décembre 1793. La nuit, quand par hasard je m'éveille et je pense que dehors et dedans tout est calme et silence, et qu'oubliant Laurence auprès de moi dormant, mon cœur mal éveillé se croit seul un moment, si j'entends tout à coup son souffle qui s'exhale, régulier, de son sein sortir à brise égale, ce souffle harmonieux d'un enfant endormi, sur un coude appuyé je me lève à demi, comme au chevet d'un fils une mère qui veille. Cette haleine de paix rassure mon oreille. Je bénis Dieu tout bas de m'avoir accordé cet ange que je garde et dont je suis gardé. Je sens, aux voluptés dont ces heures sont pleines, que mon âme respire et vit dans deux haleines. Quelle musique aurait pour moi de tels accords? Je l'écoute longtemps dormir et me rendors. 6 janvier 1794. Que rendrai-je au Seigneur pour les biens qu'il me donne, tandis que sous mes pieds la tempête résonne, que le jour verse au jour des larmes et du sang, l'inaltérable paix sur ces hauts lieux descend, et la tendre amitié, qui est la multitude, nous fait un univers de notre solitude. Que cet enfant s'attache à mon ombre, et combien son cœur à son insu se mêle avec le mien. Oh, qui pourra jamais démêler ces deux âmes que la terre et le ciel joignent par tant de trames? L'un de l'autre, il serait plus aisé d'arracher ces deux êtres jumeaux qu'un d'eux semble attaché, et qui de jour en jour, s'enlaçant avec force, croissent du même tronc et sous la même écorce. Mais les comparaisons manquent. Je me souviens d'avoir eu pour ami dans mon enfance un chien, une levrette blanche au museau de gazelle, au poil ondé de soie, au cou de tourterelle, à l'œil profond et doux comme un regard humain. Elle n'avait jamais mangé que dans ma main, répondu qu'à ma voix, couru que sur ma trace, dormi que sur mes pieds, ni flairé que ma place. Quand je sortais tout seul et qu'elle demeurait, tout le temps que j'étais dehors, elle pleurait. Pour me voir de plus près, plus loin aller ou reparaître, elle sautait d'un bond au bord de ma fenêtre, et les deux pieds collés contre les froids carreaux, regardait tout le jour à travers les vitraux. Ou, parcourant ma chambre, elle y cherchait encore la trace, l'ombre au moins du maître qu'elle adore, le dernier vêtement dont je m'étais couvert, ma plume, mon manteau, mon livre encore ouvert, et l'oreille dressée au vent pour mieux m'entendre, se couchant à côté, passait l'heure à m'attendre. Dès que sur l'escalier mon pas retentissait, le fidèle animal à mon bruit s'élançait, se jetait sur mes pieds comme sur une proie, m'enfermait en courant dans des cercles de joie, me suivait dans la chambre au pied de mon fauteuil, paraissant endormi, me surveillait de l'œil. Là, le son de ma voix, la plainte inachevée, ma respiration, plus ou moins élevée, le moindre mouvement du pied sur le tapis, le clignement des yeux sur le livre assoupi, le froissement léger du doigt entre la page, une ombre, un vague éclair passant sur mon visage, semblait dans son sommeil passer, rejaillir d'un contre-coup soudain, la faisait tressaillir. Ma joie ou ma tristesse, en son œil retracé, n'était qu'un seul rayon d'une double pensée. Elle mourut, encore son bel œil sur le mien. Que de pleurs je versais, je l'aimais tant. Eh bien, quoique ma plume tremble en glissant sur la page, de ternir dans mon cœur l'amitié par l'image, que de l'âme à l'instinct toute comparaison profane la nature et monte à la raison, ce charmant souvenir de mon heureuse enfance me revient dans le cœur quand je songe à Laurence. Cet ami de ma race à présent m'aime autant, il ne peut plus de moi se passer un instant. Il s'attriste, il languit pour une heure d'absence, il marche quand je marche, il pense quand je pense. Son regard suit le mien, comme si de nos cœurs le rayon ne pouvait se diriger ailleurs. Comme mon pauvre chien, ou comme l'hirondelle qui ne s'alarme plus de nous voir autour d'elle, il s'est apprivoisé pas à pas, jour à jour. Il boude à mon départ, il saute à mon retour, mais pour toute autre voix, pour tout autre visage, cet enfant du désert deviendrait sauvage. Oh, qui n'aimerait pas ce qui nous aime ainsi? Qui pourrait égaler ce que je trouve ici? Que manque-t-il au cœur nourri de cette tendresse? Mon Dieu, vos dons toujours dépassent vos promesses. Et dans mon plus beau rêve, autrefois d'amitié, mon cœur n'en avait pas deviné la moitié. Le manuscrit était déchiré à cette place, et il manquait un certain nombre de feuilles. On peut présumer par ce qui suit que Jocelyn avait continué à noter les mêmes sentiments et les mêmes circonstances de sa vie heureuse pendant ces mois de solitude.